Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Bourdel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média. Au menu, tous les médias, toutes les formes de culture. Tiens, aujourd'hui, on va voler. On ira de la chauve-souris à Top Gun. La bande des quatre sera là. Bruno Donnet pour ses télescopages. Lisa Marie Marquez et son portrait pré-fame. Marc-Antoine Lebray et ses voix. Et Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences. Notre infomédia va se pencher sur l'origine des pandémies. Tout comme pour le réchauffement climatique, les scientifiques du monde entier alertent sur une situation qui peut devenir encore plus explosive. D'où le nouveau documentaire de la réalisatrice Marie-Monique Robin, notre invitée spécialiste des questions environnementales. La fabrique des pandémies. Oui, une fabrique et non une fatalité. C'est la thèse des chercheurs qu'elle a rencontrée, accompagnée de l'actrice Juliette Binoche. Nos invités ensuite, le réalisateur Gaspard Sumer et la scénariste Camille Fievez. Ils signent les Cassos, dessins animés pour adultes, trash, irrévérencieux et, c'est indispensable, très drôle, série déjantée qui est devenue culte. La preuve, c'est la saison 6 qui déboule sur MyCanal et déjà 700 millions de vues sur YouTube. Enfin, la romancière Lynn Papin pour son nouvel ouvrage qui n'est justement pas romancé, Une vie possible, récit très intime dans laquelle elle raconte sans détour une fausse couche qu'elle a faite, puis un avortement qu'elle a décidé. Télescopage avec l'actualité au moment où la Cour suprême des États-Unis a justement le projet de réduire l'accès de l'IVG dans ce qui est considéré comme le pays des libertés. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias, Louise.
Eh bien, on revient sur l'événement médiatique d'hier soir. Tom Cruise à Cannes. Diams, elle, sera au cinéma. Netflix licencie et doit patienter avant d'avoir la suite de sa série à succès Squid Game. Reporters sans frontières continue de protéger les journalistes en Ukraine. Et France 3 décale l'horaire de ses débats des législatives.
On en parlait hier soir justement. D'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir.
Ils ont regardé le retour de La Faute à Rousseau, hein, c'était la saison 2.
On leur a apporté chance.
Voilà, exactement, puisque en nombre de téléspectateurs, c'est équivalent au lancement de la saison 1. Donc c'est bien quand une série en saison 2 fait autant que le lancement de la saison 1, c'est bon signe.
Normalement, il y a toujours un peu d'érosion.
Voilà, et la part d'audience est meilleure, 14% de part d'audience sur France 2, donc hier soir. Deuxième, M6. Alors là, les chiffres sont moins réjouissants, puisque c'est la plus petite audience depuis le début de cette saison. 2 180 000 téléspectateurs devant Top Chef, 13% de part d'audience, mais on l'a dit toute cette semaine, hein, il fait chaud, il fait beau, on n'a pas envie d'être devant la télévision. Et troisième, pareil pour TF1, c'est compliqué avec Grey's Anatomy, 2 millions de téléspectateurs seulement, moins bon score depuis le début de la diffusion de la saison 18, 10,5% de part d'audience.
Europe 1, Culture Média.
À la une de ce journal des médias, l'événement médiatique d'hier soir, Tom Cruise était à Cannes.
Il venait pour l'avant-première de Top Gun Maverick, film dont Europe 1 est partenaire. Ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas foulé ce tapis rouge du festival, alors forcément, toutes les caméras, les micros, les appareils photo étaient braqués sur lui hier. Et puis, il a soigné son entrée en toute simplicité. En hélicoptère, c'est comme ça que vous êtes venu vous aussi ce matin à Europe 1, Philippe, bien
évidemment.
Sûr.
Avec le deuxième, parce que le premier était en révision.
Vous l'aviez prêté à Tom Cruise.
Voilà.
Au moment de sa montée des marches, toutes les têtes se sont levées vers le ciel, puisque la patrouille de France, elle, est passée au-dessus du palais des festivals. Et l'un de nos journalistes, Johan Tritz, a eu la chance d'être dans l'un des avions, l'un des Alpha Jet. Écoutez un extrait de son reportage diffusé sur Europe 1.
Beaucoup d'informations à assimiler, surtout au niveau du cockpit, qui est très étroit d'ailleurs. Mais à l'intérieur, on a juste envie de toucher un petit peu au bouton.
Si vous touchez ici, bah, vous ne voyez pas, mais moi je le vois, le manche devant, il bouge. D'accord ? Alors, bon, ça c'est pour tirer, normalement, c'est le canon, hein. Comme dans Top Gun.
Ouais.
Voilà.
Mais la consigne principale, c'est ne toucher à rien pendant le vol et surtout, bien écouter le fonctionnement du siège éjectable. C'est lui qui peut vous sauver la vie. Et je peux vous dire que j'ai été un bon élève parce que des fois, ça fait peur.
Si jamais il y avait nécessité à sortir de l'avion, il y a une poignée en bas d'éjection que je vais vous montrer. Vous la prenez, vous tirez. Après, vous avez un parachute qui s'ouvre. L'objectif, hein, c'est pas de se poser... en douceur, c'est d'être en vie.
Voilà, c'est important d'être en vie. Johan Tritz, donc, pour Europe 1. Dans un autre avion, il y avait le chroniqueur de C'est à vous, Mohamed Bouafsi, et dans un troisième, Nathalie Renaud de M6, avec son équipe. Ils ont pu filmer la préparation minutieuse de la patrouille de France, et puis le vol en lui-même, ce sera pour les JT d'aujourd'hui, hein, le 12-45 et le 19-45. Je l'ai contactée ce matin, et je lui ai demandé si elle avait senti la patrouille sensible au fait de voler, quand même, au-dessus de Tom Cruise.
L'équipage avait rencontré Tom Cruise la veille. Et je pense qu'ils en avaient été très fiers. Ils avaient pu échanger avec lui sur sa passion pour l'aérien et une passion qu'ils partagent évidemment tous. Certains d'entre eux en sont arrivés là parce qu'ils ont vu Top Gun Et puis, d'un coup, c'est Top Gun, c'est Maverick qui vient leur rendre visite. Donc, je pense que pour eux, ça a été un moment incroyable. Mais hier, en revanche, j'ai senti qu'ils étaient concentrés sur leur mission. L'objectif, c'était de passer au-dessus du palais des festivals au bon moment, exactement à l'endroit où il fallait, c'est-à-dire entre le palais et le portique métallique qui protège le tapis rouge. Donc, c'était un espace assez étroit pour des avions. Et ils ont travaillé tout l'après-midi, se sont concentrés en vue de cet objectif.
Ouais, ce sera à découvrir donc dans les JT d'M6. Ce reportage s'inscrit dans le cadre d'une journée spéciale sur la chaîne avec la diffusion du film Top Gun, le premier, hein, ce soir, suivi d'un documentaire sur les coulisses de la suite, du second film, donc, avec Tom Cruise qui les raconte ses coulisses.
C'est la seule interview en France autour du film, car l'acteur n'a accordé aucun entretien à Cannes.
Oui, cette interview avait été enregistrée avant Cannes. À Cannes, c'est déception collective. Aucune longue interview sur place, aucun tête-à-tête. France Télévisions, partenaire du Festival de Cannes, a pu lui arracher quelques mots, mais très rapide, sur le tapis rouge. Quelques chanceux ont pu tout de même entendre Tom Cruise raconter son parcours et parler de son amour pour le cinéma, mais c'était lors d'une masterclass.
Le film Top Gun Maverick sortira mercredi prochain. Europe 1 en est le partenaire. On proposera une journée spéciale sur l'antenne. Ce sera mardi prochain, cette journée spéciale. Cinéma toujours, le documentaire sur Diam sortira aussi au cinéma.
Oui, mais pendant 2 jours seulement. Il sera projeté les 1er et 2 juillet prochains dans les salles. Puis il faudra attendre la rentrée pour le voir sur Brutix. Voilà, c'est l'information qu'on avait, que ça allait être diffusé sur cette plateforme de streaming qui est productrice du film. Et le documentaire sera aussi présenté en avant-première à Cannes le 26 mai. Il revient sur la vie de cette artiste qui sort d'un silence de 10 ans. Elle s'y livre à cœur ouvert sur son parcours d'après Brutix.
Du côté des plateformes, Netflix contrainte de licencier 2% de son personnel.
Oui, c'est environ 150 personnes aux États-Unis majoritairement. L'objectif, c'est évidemment de faire des économies, car la plateforme, je vous l'ai déjà dit, perd des abonnés pour la première fois en 10 ans, 200 000 dans le monde au premier trimestre. Alors Netflix l'explique notamment par l'arrêt du service en Russie suite à la guerre en Ukraine et donc aux sanctions internationales. En plus de licencier, Netflix a déjà annoncé avoir renoncé à plusieurs projets.
Alors ce projet-là dont on va parler, la plateforme y tient. La série Squid Game qui aura bien une saison 2, mais il faudra être patient.
Oui, il faudra attendre fin 2023, voire même 2024. C'est le créateur Wang Dong-hyuk qui l'a annoncé dans un entretien à Vanity Fair. Il commence tout juste l'écriture de cette saison 2. Il n'a écrit que 3 pages. Mais oui, parce qu'il veut prendre son temps, il ne veut pas la bâcler cette saison. Parce que la pression est forte, Philippe, après ce succès mondial rencontré par la première saison, le meilleur lancement de l'histoire de Netflix. Rappelez-vous, en 17 jours seulement, elle avait été regardée par 111 millions de personnes.
On va parler de plateforme radio maintenant. Radio Player France annonce nouer des partenariats avec Amazon et Renault.
Oui, c'est cette plateforme pour écouter la radio qui regroupe stations privées et publiques, indépendantes, associatives aussi, 230 en tout, ainsi que des web radios, 730 et plus de 200 000 podcasts. En avril 2022, la plateforme comptait 3,5 millions d'écoutes de plus de 30 secondes sur l'application mobile, 2 fois plus qu'en septembre et bientôt peut-être plus encore grâce à 2 nouveaux partenariats, à commencer par celui avec Amazon et son assistant vocal Alexa. En gros, pour les utilisateurs, vous n'aurez plus qu'à dire Alexa, mais Europe 1, voilà, par hasard, pour que la radio s'allume. Autre partenariat très intéressant avec le constructeur automobile Renault. Radio Player France sera disponible dans les futurs modèles Mégane E-Tech électrique et le nouvel Austral. L'application avait déjà conclu un accord avec Volkswagen et BMW. Partenariat très stratégique puisqu'on vous le rappelle, la voiture est un lieu privilégié. La radio y est très écoutée.
Et on salue tous ceux qui nous écoutent en voiture. Dans l'actualité des médias également, Reporters sans frontières qui ouvre un deuxième centre de la liberté de la presse en Ukraine.
Après celui à Lviv, un nouveau va ouvrir à Kiev. RSF œuvre pour la protection des journalistes en distribuant notamment casques et gilets pare-balles, en les formant aussi. Au moins 180 journalistes et autres acteurs de l'information ont bénéficié de prêts par le Centre pour la liberté de la presse, dont 40% de nationalité ukrainienne selon l'ONG. Protéger les journalistes, c'est protéger la liberté de la presse et permettre au monde d'être informé sur cette guerre.
Et on termine ce journal avec France 3 qui change l'horaire de ses débats des élections législatives.
Oui, hier, je vous parlais du communiqué d'un syndicat de France Télévisions, le SNJ, communiqué qui dénonçait l'horaire trop tardif des débats des législatives sur France 3 avec des diffusions prévues à 23h15 ou après minuit. D'où cette formule utilisée par le syndicat. À France 3, seuls les insomniaques ont le droit au débat. France 3 va donc corriger le tir pour les 2 prochaines soirées de débat le 25 mai et le 1er juin en proposant deux débats par soir. Le premier à la place de questions pour un champion, donc plutôt à 17h45. Et le second vers 23h. Ils seront également disponibles en replay. Durant la campagne des législatives, en tout, France 3 aura proposé 300 rendez-vous politiques.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant sur Europe 1, notre info média du jour, on va revenir aux origines des pandémies. La réalisatrice Marie-Monique Robin est allée à la rencontre de scientifiques aux quatre coins du monde pour nous en apprendre davantage sur l'origine de ces épidémies qui risquent de se multiplier, hélas, à l'avenir. Elle est notre invitée. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Pandémie, nom féminin, épidémie étendue à toute la population d'un continent, voire du monde entier. Ce mot, on pense ne l'avoir que trop entendu dans les médias depuis le début de l'année 2020 et de la pandémie de Covid-19. En bandeau sur les chaînes d'infos, en capitale à la une des journaux et des magazines. Mot qui semblait appartenir à une dystopie apocalyptique qui nous est devenue familier quotidien. La gestion de cette pandémie a entraîné également des milliers d'heures de débats enflammés sur la gestion sociale, la gestion sanitaire d'un phénomène nouveau. Mais ce phénomène est-il amené à se répéter? Et si oui, quelles en sont les origines? C'est important de le savoir pour pouvoir l'empêcher, le prévenir. Dans son nouveau documentaire, la réalisatrice Marie-Monique Robin, accompagnée de l'actrice Juliette Binoche, donne la parole à des scientifiques du monde entier qui étudient l'origine et la fabrique de nos pandémies. Oui, car pour eux, ces pandémies sont une fabrique et non pas une fatalité. Et c'est ce qui est passionnant dans ce documentaire. Bonjour Marie-Monique Robin.
Bonjour Philippe.
Vous êtes journaliste, vous avez obtenu le prix Albert Londres, c'est en 1995, réalisatrice reconnue de documentaires en lien avec l'environnement. Je vais citer Le Monde selon Monsanto ou Le Roundup face à ses juges. Vous présentez donc votre nouveau film La fabrique des pandémies, qui était à la base un livre. Doc diffusé ce dimanche à 20h45 sur Ushuaïa TV. Est-ce que vous avez commencer à fabriquer votre fabrique des pandémies au début du Covid, ou est-ce que c'était un sujet qui vous intéressait avant cela?
Alors moi, ça fait très longtemps que je travaille sur les liens entre l'environnement et la santé. Vous avez cité quelques films et quelques livres. Mais pour être très précise, fin janvier 2020, je tombe sur un article d'un collègue américain du New York Times. Le titre, c'était « We made the pandemics ». Nous avons fait la pandémie, nous, c'était les humains. Et je me dis, tiens, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et il y avait des scientifiques qui étaient cités. Et moi, j'ai fait mon boulot, quoi. J'ai tiré la pelote. D'un scientifique à l'autre, j'en ai interviewé une centaine. Et j'en ai gardé 62 dans mon livre. Tout en écrivant mon scénario, parce que je fais toujours les deux en même temps. Mmh. Avec le confinement, ce n'était pas possible de voyager. Donc le livre est d'abord sorti. Mais c'était bien parce qu'en fait, ça m'a vraiment permis de me recentrer sur les 14 principaux qui sont dans le film. Et de les rencontrer dans 7... pays, ce qui n'était pas évident parce que voyager entre le printemps 2021 et le février 2022, vraiment, ce n'était pas évident. Mais on y est arrivé.
Et encore, vous n'avez pas tout dit, 7 pays répartis sur 4 continents.
Oui, tout à fait.
On découvre un métier dans votre documentaire, celui d'écologue de la santé ou chasseur de virus. C'est quoi ce métier?
Alors, l'écologue de la santé, c'est quelqu'un qui... Alors, il peut être biologiste, il peut être virologue, il peut être infectiologue, il peut avoir n'importe quelle discipline. Mais en tout cas, en plus, lui, ce qu'il veut comprendre, c'est pourquoi il y a des virus qui n'embêtaient personne depuis la nuit des temps, qui d'un seul coup deviennent des dangers. Donc, quelles sont les causes écologiques qui président à l'émergence de ces maladies infectieuses? On parle de maladies émergentes parce que c'est des maladies qui n'existaient pas avant, tout simplement. Voilà. Et donc, leur boulot, c'est ça, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que, au niveau de la forêt, par exemple, l'un des facteurs, c'est la déforestation, le climat, qu'est-ce qui va faire qu'à un moment, les conditions, elles sont réunies pour qu'émerge une maladie? Voilà. Et un chasseur de virus, eh bien, c'est quelqu'un qui passe son temps à traquer les virus, comme on voit dans le film, dans les chauves-souris, dans les rongeurs, pour faire une veille et identifier les virus qui potentiellement pourraient devenir un danger pour les humains. Mais les chasseurs de virus préfèrent dire qu'ils sont écologues de la santé.
Alors là, on parle de santé, je vais parler médias parce qu'on est une émission média. Vous êtes parti donc aux quatre coins du monde rencontrer ces scientifiques, ces lanceurs d'alerte. Vous avez emmené avec vous dans vos bagages l'actrice Juliette Binoche, dont on connaît l'engagement pour l'environnement. Quelle est la genèse de votre collaboration?
Alors moi, j'étais en train d'écrire mon bouquin et puis mon scénario était prêt pour le film. Et au mois de juillet 2020, j'en reçois un coup de fil de Juliette, que je ne connaissais pas personnellement, et qui me dit « Je suis présidente d'un jury du Festival de l'environnement à Porquerolles. J'aimerais que vous soyez dedans, le jury. » Il y avait Charles Berling, etc. Et bon, aller à Porquerolles, c'est pas...
Il y a pire dans la vie.
Il y a pire, quoi. Donc, j'y vais. Et on a vraiment sympathisé. Parce que d'abord, elle a une sensibilité à l'environnement vraiment très, très, très forte.
Elle était même venue dans cette émission pour parler de ceci et non pas pour parler de cinéma, justement. C'est assez rare pour être signalé.
Oui, mais vraiment. D'ailleurs, on le voit dans le film. C'est magnifique, quoi. Elle elle a plein d'émotions qu'elle transmet au public, et c'était un petit peu ça l'idée. Donc elle me dit, oh ouais, c'est super ce que tu fais, j'aimerais, je connais rien à la science, parce qu'elle est comme ça, Juliette, je connais rien à la science, et moi j'aimerais tellement comprendre, pour dire moins de bêtises, elle parle comme ça. Hein. Ouais. Et je lui dis, bah ouais, mais bon, t'es très prise, je vois pas trop comment je pourrais t'embarquer dans sept pays, quatre coins du monde. Et en fait, elle s'est battue. Bon, au début, j'étais un peu réticente, en fait. Hein. Et après, je me suis dit, si... Tu sais, quand tu fais un film avec, il y a beaucoup de scientifiques, ça peut faire peur à des gens en se disant on va rien piper, on va rien comprendre. Et moi, mon but, c'est quand même de faire des films que tout le monde peut regarder, que tout le monde peut comprendre. Et ça, Juliette, elle joue ce rôle. C'est-à-dire que comme les scientifiques savent qu'elle n'y connaît rien, ils font un énorme effort de pédagogie et ça marche, quoi.
Je l'ai dit, on est une émission média. Est-ce que le fait d'avoir Juliette Binoche au générique aide à vendre le film ensuite aux télés ?
Alors ça, c'est pas du tout gagné pour autant, parce que en fait.
Est-ce que vous choisissez TV, vous aviez déjà un deal avec eux avant l'arrivée de Juliette Binoche dans le projet ?
Tout était bouclé.
D'accord.
Donc Ushuaïa, RTS en Suisse, la RTBF en Belgique, tout était bouclé. Ça n'a rien changé pour ça. En revanche, je pense que le film, je vais interpréter en avant-première dans des salles de cinéma, etc., pour annoncer la diffusion du film. Et ça intéresse les gens de savoir pourquoi elle est là, Juliette Binoche. Mais moi, tout était prêt, en fait, quand je la rencontre.
Alors, on en vient donc au sujet de ce documentaire, l'origine des pandémies dans le monde. Parmi les scientifiques que vous rencontrez, l'écologue de santé Rodolphe Gozlan, l'épidémiologiste Mathieu Lachère, ils organisent un séminaire en Guyane pour sensibiliser des professionnels de la santé aux maladies émergentes. Ils ont co-signé une étude qui sonnait l'alerte sur le risque d'une épidémie dans la région de Wuhan, deux mois, c'est là où c'est très important, deux mois avant le début du Covid dans cette région du monde. Ils répondent donc aux questions de Juliette Binoche, extrait.
On a identifié les facteurs d'émergence. Bien qu'on ait des maladies totalement différentes, elles ont des facteurs communs d'émergence.
Donc on a des cartes avec différentes informations sur la déforestation, le climat, les différentes maladies. On voit en regardant à travers le monde que quand on empile ça et ça, c'est les conditions d'émergence.
Alors concrètement, quelles zones à risque avez-vous identifiées ?
Il y avait deux régions qui sortaient du lot, on va dire, hein, et qui étaient l'est de la Chine, qui comprend Wuhan, et puis l'Ouganda, au niveau de l'équateur, en Afrique de l'Est.
Donc vous voulez dire que vous aviez déjà prévu l'épidémie de la Covid-19 à Wuhan ?
Il y avait les conditions nécessaires pour que ce cocktail dangereux émerge.
Je ne sais pas si ça doit faire froid dans le dos ou au contraire être rassurant, puisqu'on peut prévoir les épidémies si on les écoute.
Oui.
C'est peut-être une bonne nouvelle. Quels sont ces facteurs communs d'émergence aux pandémies dont parlent ces deux scientifiques, Marie-Monique Robin ?
Il y en a trois principaux. La déforestation, notamment dans les zones tropicales, les forêts primaires, parce que vous voyez, il y a beaucoup d'animaux sauvages là-bas, il y a une grande faune.
Normal.
Donc il y a plein de micro-organismes, mais qui ne nous embêtent pas. Vous voyez, tant qu'on ne rentre pas dans ces espaces, ils ne sont pas du tout dangereux. On en a même besoin. Mais voilà. En tout cas, la déforestation, c'est clairement. Ensuite, l'élevage intensif qui sert de pont. C'est-à-dire qu'un virus de chauve-souris, ça ne passe pas à l'homme directement. Ça doit toujours passer par un animal intermédiaire qui est un pont. Hein. Et évidemment, quand c'est un élevage intensif avec des cochons, par exemple, qui sont tous identiques, eh bien, ça fait comme une bombe écologique. Donc, l'élevage intensif et troisièmement, la globalisation, évidemment. Parce qu'un virus qui sort d'une forêt, pour faire simple, asiatique, peut gagner l'autre bout du monde le temps d'un long courrier. Donc ça, ce sont ces trois facteurs qui sont vraiment bien identifiés. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce sont des dizaines d'études partout dans le monde, sur quatre continents, pour plein de maladies différentes, qui montrent que c'est toujours les mêmes facteurs. C'est pour ça qu'ils ont d'ailleurs pu, en identifiant ces facteurs, en prenant des cartes et tout, se dire, attention, Wuhan, zone à risque, ou Ouganda, zone à risque. Vous voyez. Donc la bonne nouvelle, vous avez raison, c'est que si on peut identifier les causes, on peut anticiper.
On peut agir dessus.
Et puis on peut agir dessus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle.
On continue de parler de ce doc, La fabrique des pandémies. Marie-Monique Robin avec nous dans Culture Média sur Europe 1. A tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de La fabrique des pandémies, documentaire qui va passer dimanche à 20h45 sur Ushuaïa TV. Après avoir été un livre, les deux sont signés Marie-Monique Robin. Vous avez fait le tour du monde, 4 continents, 7 pays, des rencontres de scientifiques. Il y en a 13 ou 14 dans votre doc, il y en a plus d'une soixantaine dans le livre. On y apprend ce qu'on savait, mais avec des détails en plus, évidemment, que pour que le virus passe de la nature à l'homme, il faut des vecteurs. Un animal dont on a beaucoup, beaucoup entendu parler pendant l'épidémie de Covid, qu'on prend pour son grade, c'est la chauve-souris. On nous en parlait à l'évocation de quasiment chaque épidémie dans ce doc, La fabrique des pandémies. Par exemple, lorsque vous êtes au Gabon et que vous revenez sur l'origine du virus Ebola, vous entretenez, c'est lui qu'on va entendre, avec le virologue Gaël Maganga.
Ce qu'on sait aujourd'hui, l'origine du virus, c'est que les chauves-souris seraient les espèces animales réservoirs du virus. On pense que les singes sont les hôtes amplificateurs, donc chez lesquels le virus Ebola mute et se transmet à l'homme. Les grands singes se contamineraient via la consommation de fruits souillés par les urines ou les excréments de chauves-souris. Et les humains se contamineraient à partir de ces grands singes-là via la chasse, le dépeçage, la manipulation des carcasses de ces animaux-là.
Marie-Monique Roman, on comprend que la chauve-souris est devenue l'ennemi public numéro un. Il est beaucoup question de déforestation dans ce documentaire. Moi, je voyais les reportages, j'ai été touché évidemment, mais je n'aurais jamais pensé que la déforestation, c'est-à-dire couper un arbre qui fait 100 mètres de haut, affecte les micro-organismes. Racontez le lien, cette chaîne de vie.
Voilà, alors, la chauve-souris, quand même, ce n'est pas l'ennemi public, hein. C'est pas elle le problème, ce sont nous les humains, justement. Parce que quand on abat un arbre, on modifie totalement l'environnement. Alors, par exemple, si vous êtes dans une forêt tropicale, vous coupez l'arbre. Il y avait une petite rivière là, et bien tout va changer. C'est-à-dire que le soleil va rentrer, les oiseaux qui mangeaient les poissons carnivores, qui eux-mêmes mangeaient ensuite les petits crustacés qui étaient dans l'eau, eh bien, vont disparaître parce qu'il y a plus de visibilité. Donc, voilà. Et les petits crustacés vont donc proliférer parce qu'il n'y a plus l'intermédiaire du poisson carnivore. Et là, dans mon histoire, c'est embêtant parce que ces petits crustacés sont réservoirs d'une bactérie qui peut donner une sale maladie, qui est l'ulcère de Bourouli. Donc on voit comment, quand on abat un arbre en forêt, pour faire simple, on peut provoquer une maladie à des milliers de kilomètres. C'est absolument fabuleux. C'est toute cette... Vous avez, ce sont des effets en cascade, en fait, et qu'on ne mesure pas assez. Et c'est pourquoi ce film est important, parce qu'on comprend véritablement que, vous voyez, la biodiversité, ce n'est pas un supplément d'âme pour Bobo écolo à vélo, dont je fais partie, moi, ce que je fais, voilà. Mais c'est bien plus que ça. D'abord, c'est notre maison commune, on en a besoin pour vivre, on dépend d'elle, et puis quand on la perturbe trop, eh bien, c'est un effet boomerang, vous voyez. On déséquilibre toute la chaîne du vivant. Et ça devient dangereux pour nous.
Marie-Monique Robin, vous alertez sur les dangers de la déforestation, mais vous n'oubliez pas la raison sociale de ces pandémies. On est parlé, et avant la chauve-souris, il y a l'homme. Oui. Les populations pauvres qui ont besoin de l'agriculture ou de la chasse pour vivre, pour se nourrir. C'est le cas à Madagascar, où vous vous rendez avec Juliette Binoche. Là, vous rencontrez une spécialiste des lémuriens. Elle s'appelle Patricia Wright. Lémuriens mis en danger, encore une fois, par la déforestation.
Est-ce qu'on peut préserver les lémuriens sans s'attaquer à la pauvreté ?
Impossible. Les gens qui habitent autour de ce parc sont très pauvres. Ils ont besoin des arbres pour cuisiner. Ils détruisent la forêt pour planter des haricots ou du riz. Nous travaillons sur des alternatives en essayant de les aider pour la santé, l'éducation et leurs moyens de subsistance.
Madagascar est l'un des pays les plus pauvres de la planète. 80% des 27 millions d'habitants vivent, ou plutôt survivent, en zone rurale, loin de tout. Ici, on se déplace à pied, au milieu des collines pelées. Chaque année, 100 000 hectares de forêt partent en fumée pour pratiquer l'agriculture sur brûlis ou faire du charbon.
En ce qui concerne l'écologie en France, on a beaucoup parlé à l'époque des gilets jaunes avec cette formule de la problématique entre la fin du monde et la fin du mois. C'est encore plus criant, évidemment, dans les pays pauvres. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas un peu facile, nous place, nous, en tant qu'Occidentaux, d'alerter sur la déforestation, alors que là-bas, sur place, ces populations n'ont parfois pas le choix, pour dire les choses, rien à manger.
Oui, tout à fait. Mais nous aussi, on a un rôle à jouer. Je vous donne un exemple. Très clairement, c'est dit dans le film qu'il faut manger moins de viande. Et si on en mange, c'est de la viande locale, bio. Pourquoi ? Parce que si elle n'est pas bio et locale, elle est nourrie avec du soja qui vient d'Argentine ou du Brésil. Et moi, j'ai filmé ça dans des films avant. Donc, ça veut dire qu'on contribue au dérèglement climatique, à la déforestation, parce que pour faire ces immenses monocultures de soja, ben, on déforeste. Et donc, c'est pas bon pour le climat, c'est pas bon pour la biodiversité, c'est pas bon pour la santé. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le concept de déforestation importée. C'est-à-dire que chaque acte quotidien de consommation, il faut se poser la question. Ça vient d'où et quel impact j'ai ? Vous voyez, on est tous interconnectés. En fait, c'est ça que dit le film.
Il y a un point aveugle dans votre reportage. Vous ne parlez pas de la surnatalité. Vous le dites, Madagascar compte 27 millions d'habitants. J'ai regardé, en 2000, ils étaient 17 millions. C'est-à-dire que Madagascar a presque doublé de population en 30 ans. C'est comme si en France, nous étions plus de 100 millions. Je vais prendre l'Afrique en général. Dans les années 50-60, la population était de 250 millions. 640 millions dans les années 90. Et aujourd'hui, il y a 1,4 milliard d'habitants en Afrique. 1,4 milliard. Est-ce que la surnatalité n'est pas
un
sujet tabou ?
Cette question, les scientifiques en parlent très bien aussi. Le problème, c'est la pauvreté. Vous savez, dans nos pays, on a commencé à faire moins d'enfants quand on a eu le droit à un certain type de développement, le droit à l'éducation, la santé.
On a aussi fait moins d'enfants avec l'invention de la pilule qui n'existait pas au
XVIIe
siècle.
Oui, mais n'empêche qu'on a contrôlé notre fertilité beaucoup plus facilement, et ça, les études sont très claires là-dessus. D'ailleurs, en Asie, la population, le taux de fertilité est en train de s'effondrer. Hein. Mm-hmm. Donc, le problème, c'est la pauvreté, c'est les inégalités qui creusent ces écarts et qui font que dans des pays comme Madagascar, moi j'étais très touchée par ce pays, c'est un pays d'une extrême pauvreté qui se prend tout sur la figure, quoi, le dérèglement climatique.
Mais ce que vous dites est terrifiant, parce que c'est un cercle vicieux. Plus ils sont pauvres, moins il y a le contrôle des naissances, oui. Donc plus il y a de naissances et donc plus ils sont pauvres,
voilà.
Puisque la richesse ne peut pas augmenter.
Sauf qu'on peut aussi se dire qu'il faut lutter contre les inégalités qui sont quand même assez extraordinaires dans le monde et de plus en plus importantes.
On est bien d'accord. Comme toujours, vous présentez ce documentaire un peu partout en France. Quels ont été les retours ?
Alors, la première en première était à l'UNESCO. Il y avait 1300 personnes. Ça s'est vraiment super bien passé. On a refusé plein de monde. Et depuis, je suis sur les routes tous les jours. Les gens sont très touchés par le film parce qu'à la fois, on découvre que c'est beau la biodiversité. On a mis beaucoup de moyens pour bien la filmer. Deux caméramans, enfin, c'est très rare pour des documentaires. Hein. Un droniste qui a inventé un petit drone pour rentrer dans les forêts. Et de l'autre, ils comprennent que c'est pas, vous l'avez dit en introduction, ce n'est pas une fatalité. Mais attention, si on ne s'attaque pas aux causes, on peut avoir d'autres pandémies, et bien plus dangereuses que celle-ci. Parce que vous avez vu dans le film, toutes les maladies que je présente, elles tuent entre 30 et 90% des gens. C'est beaucoup, beaucoup plus important que la Covid-19. Donc, le film touche beaucoup les gens qui pleurent dans la salle. Hein, et qui, pour le livre, j'avais aussi beaucoup de témoignages, des gens qui me disaient merci, parce que ça remet de la cohérence dans le monde dans lequel nous vivons.
Je vais dire comme eux, je vais dire merci. Merci Marie-Monique Robin, La Fabrique des Pandémies avec Juliette Binoche. C'est dimanche soir à 22h45 sur Ushuaïa TV. Il y a évidemment le replay. Et le livre qui était en édition premium, qui s'est vendu à 60 000 exemplaires, c'est un sujet pas facile. Vendre autant de livres, ça augure de la qualité du livre. Je dis ça augure parce que je ne l'ai pas lu, je ne vais pas vous mentir. Quand je lis un livre, je le dis. Quand je ne l'ai pas lu, Et il sort en poche chez Pocket.
Il est déjà sorti en janvier. Voilà.
Merci d'avoir été avec nous, Marie-Monique Robin. Dans un instant, on parlait de la série d'animation satirique Les Cassos sur Canal. C'est des personnages de la culture populaire tels que Casimir ou Barbie qui sont amenés à rencontrer une assistante sociale. C'est ça, les Cassos, les cas sociaux. On sera avec le réalisateur Gaspard Sumer et la scénariste Camille Fievez. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Gaspard Sumer.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur, votre actualité c'est les cassos, mais déjà à la base, on va faire c'est l'instant dictionnaire. C'est quoi un cassos ? Qu'est-ce qu'on entend par cette expression ?
Eh bien écoutez, c'est très simple. Un cassos, c'est le diminutif de un cas social. Et en fait, un cas social, c'est quelqu'un qui parfois, dans sa vie, a besoin d'aller voir l'assistante sociale pour se décharger de ses problèmes ou de ce qui peut lui arriver sur l'instant.
Alors, les Cassos, c'est également et surtout un dessin animé pour adultes, une série culte. Depuis 2013, les Cassos cumulent plus de 700 millions de vues sur YouTube, près de 2,7 millions d'abonnés. Les Cassos reviennent pour la saison 6 sur MyCanal. Il y aura 16 épisodes de 2 minutes. Il y a, parce que c'est déjà diffusé, 16 épisodes de 2 minutes, avec notamment au scénario Camille Fievez, bonjour.
Bonjour.
Racontez le principe de cette série, donc les Cassos avec un K.
Ouais, les Cassos, c'est des personnages de la pop culture qu'on connaît tous, enfin plutôt les jeunes, sans offense.
Il y a Astérix, Casimir, Super Mario, ouais. C'est pas 2010. Hein.
Ouais, mais il y a aussi tous les animés japonais, et donc ils sont la pire version d'eux-mêmes, cassosisés, ouais. Donc un peu cradifiés, et ils viennent consulter une assistante sociale pour répondre à un problème. Qui les amène.
Voilà, ils ont quoi comme genre de problème, ces Cassos ? Parce qu'il y a aussi d'autres personnages. Il y a Ratacouille, on devine un peu qui c'est, ou Planche-Neige. C'est quoi leur genre de problème ?
Planche-Neige, par exemple, Planche-Neige, elle a des problèmes de charge mentale. Ouais. C'est un problème relativement moderne, je pense, qu'on a traité avec sérieux dans notre série.
Lucky Luke, il a un problème d'ego avec son ombre. Il fait des concours de beat avec son ombre, voilà.
Je ne savais pas qu'il allait faire ça. Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai retrouvé un idole. Je ne sais pas s'il est maintenant, je suis en scooter. Je ne sais pas s'il est toujours dans le métro. C'est le petit lapin. Le petit lapin rose à qui on disait attention, ne mets pas tes mains sur la porte, tu risques de te faire très mal.
Trop fort, ouais.
Voilà, et il lui arrive quoi à ce petit lapin ?
Dans cette saison, on ne l'a pas mis.
Non. Oui, mais avant, vous ne l'avez pas
enlevé. Alors, le petit lapin, si, il a vécu beaucoup de choses. Il est passé par des hauts et des bas. Il a rencontré l'amour dans la saison 5.
Mmh. Et il était addict au SM.
Ouais, il est sadomaso. Il aime bien se faire frire les couilles. Ouais.
Je savais pas que c'était ça. Je savais pas que j'allais vous lancer sur ce terrain-là. Dans cette saison 6, on peut voir Charlotte aux fraises complètement à côté de la plaque. Il ne comprend que le premier degré. Batman Avec le deuil de ses parents, il est déboussolé, il est dispersé. Joséphine Ange-Gardien qui chante du swing. On va entendre un extrait, le premier qu'on a choisi, c'est Barbie. Elle a pris quelques grammes en trop, et je suis poli, Barbie. Elle est devenue influenceuse body positive sur les réseaux sociaux.
Dites-moi, ça a l'air de marcher pour vous les réseaux sociaux, non ?
Ouais, carrément. Surtout depuis que je transmets des valeurs body positive, ça like à fond. Hashtag bon lait, je suis fou folle. Regardez-moi, avant je faisais un 34 et maintenant je fais un 38. Et je le vis super bien. Ouais.
Oui, enfin, ça va, vous n'êtes pas non plus...
Non, merci. Mais vous aussi, regardez-vous, vous êtes hyper positive dans votre petit 52, là.
Je fais du 48.
Hein. Oui, d'accord, enfin, la catégorie des gros lards, quoi. Mince. Enfin, mince.
Gros travail sur les voix, c'est pas politiquement correct, on l'entend. La voix de l'assistante sociale, c'est un acteur, Mehdi Sadoun, qu'on a pu voir dans les Kaïra. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Ça préexistait peut-être à votre arrivée ? Pourquoi un accent y est ? Pourquoi lui ?
Alors ça, c'est depuis le début des ouais. Cassos que Mehdi Sadoun travaille avec les réalisateurs. Donc là, il faut savoir qu'on est à la saison 6. Donc Mehdi Sadoun, il travaille avec eux depuis 2013, je crois, ou même 2012. Et je sais pas. Pas trop. Alors lui, il m'a raconté que c'était parce qu'il avait été élevé par une nounou antillaise. Mmh. Donc, du coup, il avait.
Non, ma question n'était pas pourquoi il avait cet accent, c'était pourquoi ce choix de réalisation. Ça serait un autre programme que le vôtre, ça serait perçu comme du racisme ou de la mise à distance. C'était ça le sens de ma question.
C'est certain.
Bah oui, c'est un peu un défaut du programme et c'est aussi qu'il joue de son ancienneté. Si le programme était créé aujourd'hui, bien sûr, ce choix n'aurait pas été fait.
Ah bon ?
Bah oui, c'est sûr.
Je ne savais pas. Il y a aussi ce dernier dinosaure qui n'arrive plus à vivre avec son temps.
Merde, chier. Bon, vous pouvez pas fumer ici, monsieur Denver, ouais. Eh ben voilà, on peut plus rien faire. On peut plus fumer, on peut plus boire au volant. On peut même plus mettre une petite main au diplodocu. La France du Jurassique, c'était pas les mêmes valeurs. Non-binaire, écolo, trottinette, mes couilles. Tous ces jeunes, vous savez ce qu'il leur faudrait ?
Un avenir ?
Une bonne grosse météorite, tiens. Et paf ! Ah, je hais cette époque.
Bon, vous avez fini un peu, là ?
Non, j'ai pas fini ! Dans les années 80 millions avant Jésus-Christ, vous avez pas connu ça, vous ? On n'avait qu'un seul continent. Pas de tasse carbone, ni de poubelle jaune. Et on n'avait pas encore inventé les Arabes.
Eh ben, bienvenue à « Je suis raciste », par
exemple. Ah, ben, je l'attendais, celle-là. Conclusion, on peut plus rien dire.
On peut plus rien dire, sauf vous, Camille Févet. Est-ce que vous censurez quand vous écrivez ? Est-ce qu'il y a de l'autocensure ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas passer ?
Bah oui, on essaye d'éviter des blagues sur le viol, sur... les violences conjugales. Après, moi, j'étais aussi recrutée parce que je suis une femme aussi pour féminiser la room. C'est un fait, quoi. Mm. Et donc, bah ouais, je voulais bien jouer mon rôle de féministe et de ne pas laisser passer tout et n'importe quoi. Après, c'est aussi une série où bah, on a une liberté de ton et on essaye d'en profiter pour être bien débile et dédramatiser des trucs, voilà.
Mmh. Bah c'est surtout une. J'ai l'impression que maintenant, les Cassos existent depuis un petit moment et que donc, du coup, chaque saison, on va essayer, je pense, de changer un petit peu de ton, d'essayer d'aller sur des choses un petit peu différentes. Par exemple, là, je pense qu'on a essayé de privilégier à fond l'absurde et peut-être moins de trash que ce que la série propose traditionnellement la série. Quoi. Parce que justement, je pense qu'on avait envie un peu de bifurquer, de voir un petit peu ce que ça va donner, comme ça existe depuis longtemps. Maintenant, ce qui est important, c'est de se renouveler en fait.
Blanche-Neige, elle est quand même un peu trash, il y en a. Et alors, elle a des problèmes, Blanche-Neige, qui s'appelle Blanche-Neige, c'est des problèmes de charge mentale. Vous savez quoi, on marque une pause, ça arrive tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle des Cassos. Non, ce ne sont pas Camille Févet et Gaspard Sumer, nos invités. Gaspard Sumer, c'est le réalisateur. Camille Févet, une des scénaristes. Les Cassos, c'est une série qu'on peut voir sur MyCanal. C'est la saison 6 qui débarque. Ce sont des personnages qu'on connaît tous de la pop culture qui ont des soucis dans leur vie et qui vont voir une assistante sociale. Par exemple, Blanche-Neige. Elle vit avec 7 nains, mais c'est elle qui doit s'occuper du repassage, de la lessive, du ménage. La charge mentale est trop forte, elle est au bord de la rupture.
Mais quoi, tu trouves pas ton bonnet ? Il est dans le même tiroir que d'habitude.
Ah merde !
Le bleu, là, celui du haut, voilà. Tu trouves pas ? Ah mais dégage ! T'as demandé à branleur ? Oui. Voilà, bah oui, il était là. Eh oui. Oui, oui, oui. Bisous.
Eh bien, qu'est-ce qu'il fouet sans vous ?
Bah leur corvée, peut-être. Putain, ça c'est encore casse-cou qui s'est piqué sa pioche.
Il y a vraiment personne autour de vous pour vous aider ?
Tu vas m'aider, toi ?
Oh, tu vas m'aider ! Oui, piou-piou ! La 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 ! Merci, mon piou-piou ! Allez, c'est l'heure de récupérer les chiottes !
Mon Dieu.
Avant qu'on dise ce qui est arrivé à Piu Piu, Camille Févé, c'est votre voix.
Oui, c'est la... mais je ne la reconnais pas, franchement. Ouais. Je ne la reconnais pas du tout.
Vous étiez dans quel état quand vous l'avez enregistré ?
En sueur, c'est une toute petite cabine, c'est un petit sauna.
Voilà. C'est vrai ? Il y a un gros, gros travail sur les voix. Suivant les épisodes, on peut entendre aussi les voix de Monsieur Poulpe, Squeezie, Cyprien, Kevin Razi, Mela Bedia ou encore Zoé Félix. C'est important pour vous aussi le son, surtout dans de l'animation.
Ah bah clairement. D'ailleurs, c'est, enfin, sur cette production, c'est un des premiers trucs qu'on fait quasiment après l'écriture. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on enregistre directement un comédien auquel on a pensé au moment de l'écriture en se disant « Ah mais ça c'est son rôle à lui !» C'est lui qu'on veut et on l'invite.
Je rigole parce que même pour faire ça, vous faites une voix.
Oui, bah oui.
Non, mais parce qu'on passe notre temps en fait en écriture à faire des voix pour préparer en fait le personnage et donner un ton au personnage. Donc, d'ailleurs, moi-même, je fais quelques voix. Camille en a fait, Laetitia qui est à l'écriture en a fait aussi.
Guillaume Darnaud, qui est notre directeur de plateau
et qui est à l'écriture également, a fait des voix. Donc on bosse les voix.
Dans les cassos, c'est de l'animation. Et on peut dire dans l'animation des choses qui ne seraient même pas tolérées avec des prises de vue réelles. De la violence, du sang, des parties génitales, pour dire les choses crûment. Et même des meurtres. Je vais dire ce qui arrive à Piu Piu. Blanche-Neige, elle est tellement à bout. Elle prend le petit oiseau. Elle l'écrase. Elle le fait exploser comme un paquet de chamallows. C'est jouissif. Vous réfléchissez à deux fois avant de mettre des images comme ça. Ou au contraire, c'est je vois que vous avez le sourire.
En fait, les cassos, j'ai l'impression que le ton s'est imposé au fur et à mesure. D'ailleurs, je pense que ça a commencé à être un peu trash avec donc Serge, le lapin du métro, dont vous parliez, qui est apparu pour la première fois dans la saison 3. Ouais. Et en fait, le ton est trash et j'ai l'impression que le public est assez réceptif. On ne fait pas ça avec tous les épisodes, mais de temps en temps, on se permet quand même de temps en temps.
Après, c'est désamorcé avec les bruitages, c'est tout des cartoons, donc c'est pas du tout choquant.
Non,
un pion qui éclate dans la vraie vie. Quoi.
Je sais, mais ça serait impensable de montrer ça dans un film. Ça serait impensable. Les personnages que vous utilisez sont des marques. Est-ce que vous demandez l'autorisation au propriétaire ?
Non, jamais. Mais par contre, on sait qu'il y en a, il ne faut pas toucher.
Par exemple.
Mais j'ai le droit de le dire ou pas ?
Bah, évidemment, puisqu'il ne vous avait pas y touché.
Tintin. Chasse gardée.
Normal.
Sur Tintin.
Et pourtant, on aimerait. Hein.
Ouais.
Il y a beaucoup de choses à faire avec, mais. Mais on
en fait, vous pouvez, mais après, vous allez vous prendre un procès carabiné qui peut durer des années, vu la surface bancaire, si j'ose dire, des héritiers de Tintin. Vous avez déjà fait des sketchs sur des personnages pas assez connus ou ce qui vous intéresse, au contraire, c'est de mettre une icône dans une situation un peu désespérée.
Il faut que ce soit connu parce que sinon, personne n'aura la référence et on ne peut pas parodier quelque chose que personne ne connaît, c'est impossible. On joue que sur la référence, donc si personne ne l'a, c'est pas marrant quoi.
Les cassos sont produits par Bobby Prod, qui a délibérément fait le choix de tourner le dos à la télévision pour aller directement sur le web. Il faut le dire, les dessins animés, c'est plus seulement pour les enfants. Quel est le public de ce genre de série, de web-série ? Vous le connaissez ?
Les cassos en particulier, je crois que ça s'étend quand même, c'est plutôt des jeunes, donc je crois que le public il s'étend surtout de 15 à 25 ans. Et
Ça plaît aussi aux trentenaires.
Maintenant, comme ça existe depuis 9 ans, je crois. C'est ça,
exactement.
Ils ont grandi 2013. Avec les cassos.
Il y a des gens qui écoutent, qui regardent l'émission et quotidiennement qui reviennent. Et donc, c'est des gens qui ont grandi avec, entre guillemets. Quoi.
Je vous demandais si vous y étiez déjà censuré en tant que scénariste. Est-ce que parfois vous avez été censuré après à la réalisation où Canal, sur MyCanal, dit non, on ne peut pas passer ça. Ou ce mot-là, on ne peut pas le passer.
Nous, non. Nous, ils ont été très cool avec nous.
Est-ce qu'on ne s'est pas censuré sur Zemmour? Non.
Oui,
mais en même temps, c'est pas très drôle. C'est pas très drôle. C'était en vrai.
Pas très drôle.
On trouvait pas un axe vraiment drôle. On s'est auto-censuré sur ça.
Ouais. Il y aura une saison 7.
Ah oui, clairement. Ouais. Elle est déjà. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a déjà l'équipe qui est constituée en tout cas.
D'accord.
Pour la faire.
Vous êtes une sacrée équipe. J'ai rarement vu un générique aussi nombreux. J'ai noté. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de voix, beaucoup d'animateurs. Comment se fait-il qu'il faille être aussi nombreux ? C'est parce qu'il faut que ça sorte très rapidement sur une série comme ça. Et je m'en réjouis. Hein. Je suis très content de voir des gros génériques. Je suis pas en train de faire une critique. Mais c'est quoi le modèle économique de cette série justement ?
C'est qu'on n'a pas d'argent. Le truc qui est important d'avoir beaucoup d'animateurs, c'est qu'en fait on peut faire un roulement et jamais vraiment s'essouffler. C'est-à-dire que les animateurs vont pas passer des jours et des jours sur un épisode, ils vont pouvoir se renouveler. Donc en fait, plus on va être nombreux, plus ça va être dense et plus on va sortir les épisodes rapidement.
Merci beaucoup les Cassos, c'est pas vous. Les Cassos, c'est la saison 6 à voir sur MyCanal. 16 épisodes de 2 minutes. Merci d'avoir été avec nous. Camille Fievé, on peut aussi vous voir sur YouTube. Vous faites toujours vos tutos déjantés ?
Non, j'ai arrêté.
Ah dommage, ouais, avec les fausses influenceuses, vraies fausses influenceuses. Et Gaspard Sumer, le réalisateur de cette saison 6 qui a déjà des idées pour la saison 7. Merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue évidemment après les infos de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet. Il est tombé sur un candidat du Rassemblement National amoureux de la photographie. Je ne vous dis que ça. Notre invité, c'est la romancière Lynne Papin pour Une vie possible. Un livre, un ouvrage non romancé, très intime, autour d'un sujet pas facile, la fausse couche et l'IVG. Et puis dans les indispensables, toujours le prix littéraire Europe 1 GMF. On sera avec Nicolas Carreau qui nous présente aujourd'hui l'un des 4 candidats. Et puis Olivier Benkemoun va revenir évidemment sur Tom Cruise qui était sur la croisette 30 ans après. C'est le film Top Gun Maverick. En fin d'émission, Marc-Antoine Lebray et ses stories. À tout de suite sur Europe 1.